Vivante Église, reportage. Avec Marie-Pierre Pavlak.
J'ai entendu parler de Sainte-Émilie, mais je ne savais pas qu'il y avait un musée. Et voilà, j'ai voulu voir ce qu'il en était.
Qu'est-ce que vous découvrez, vous ?
Là, je viens d'arriver dans une belle maison. Je vois que c'est une famille aisée. Je ne connaissais pas trop sa vie, mais je vais lire au fur et à mesure les étapes de sa vie. Ben, moi, j'étais à l'école à Saint-Joseph, donc j'ai quand même eu une certaine éducation religieuse. Mais c'est vrai qu'on en parlait entre nous, mais sans connaître. Bon, elle a une chasse à l'église Saint-Pierre. Si, quand même, on connaît un peu les classiques. Mais voilà, maintenant, je veux voir ce qui se passe à Gaillac, surtout. Voilà.
Et à travers ces aquarelles qui sont vraiment
très fines. Hein. Oui.
Très, très fines, très délicates, beaucoup c'est de délicatesse.
Des belles couleurs, et puis sur les mobiliers d'autrefois, enfin, la vie...
Qui donne beaucoup d'informations, justement, sur le quotidien.
Oui, en effet, c'est très bien fait. Ouais.
Tout comme Michel, que nous venons d'entendre, nombre d'habitants des Gaillac ont fait toute ou une partie de leur scolarité au collège et lycée Saint-Joseph. Un établissement privé sous contrat et sous la tutelle de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Congrégation fondée le 25 décembre 1832 à Gaillac, dans le Tarn, par une jeune fille du pays, Émilie de Vialard. Mais aujourd'hui, dans la petite ville du bord du Tarn, qui connaît vraiment cette jeune femme qui, saisie par l'amour du Christ, a répondu inconditionnellement aux appels et aux détresses des femmes et des hommes de son temps ? Qui connaît cette missionnaire canonisée le 17 juin 1951 par le pape Pie XII et qui, pour révéler l'amour de Dieu à chaque homme, a envoyé ses sœurs sur tous les continents ? Comment aujourd'hui faire connaître à l'actualité de son message ? Comment le faire rayonner ? Réponse avec la petite communauté des sœurs de la Maison Mère de Gaillac, leurs amis, la communauté paroissiale et le père Gaël Rocoul, curé de la paroisse Saint-Michel de Gaillac, qui ce dimanche 22 juin 2025 invitait tout un chacun à découvrir, à redécouvrir le musée Émilie de Vialard.
Nous sommes dans la maison natale de Sainte-Émilie de Vialard. Émilie de Vialard est une sainte locale, tarnaise, comme il y en a une autre, mais Castrez d'Hauterive, Émilie de Villeneuve, qui était assez contemporaine dans ses figures du lendemain de la Révolution française. Et donc nous sommes ici dans cette maison natale donc, qui a vu grandir et émerger la vocation de notre sainte gaillacoise. Et cette maison a été transformée aujourd'hui en musée pour présenter la vie d'Émilie de Vialard, grâce notamment à un homme, Pierre Boyer, qui était aquarelliste et qui, dans sa retraite, a reçu la commande de la part des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, sœur Joseph-Marie à l'époque, de réaliser des aquarelles pour illustrer la vie d'Émilie de Vialard. Donc ce musée qui a émergé il y a 20 ans.
Quand on dit musée, on pense bien sûr conservation. Alors conservation de la mémoire d'Émilie de Vialard, de son œuvre, mais également conserver, mais faire connaître, faire rayonner aussi.
Exactement. Et en réalité, moi, je suis curé de la paroisse de Gaillac depuis septembre dernier, à peine. Mais je suis originaire non loin d'ici, de Rabastens. Je connaissais la congrégation, bien sûr, Gaillac. Et je connaissais, du coup, cette figure d'Émilie de Vialard. Mais je me rends compte, en étant ici à Gaillac, que les Gaillacois ne connaissent pas beaucoup Émilie et ignorent l'existence de ce musée, de cette maison, de ce lieu, encore une fois, où elle a grandi, où sa vocation a émergé, où des belles pages de l'histoire de notre ville aussi se sont écrites. Et donc, ça me tenait à cœur, dans cette année, 20e anniversaire de l'ouverture du musée, disparition de l'aquarelliste à l'automne dernier, de l'occasion de lui rendre hommage aussi, et donc de faire connaître et rayonner la figure d'Émilie, déjà auprès des Gaillacois, et plus largement aussi, bien sûr.
Parce que le musée n'est pas ouvert tous les jours. Là, il est ouvert exceptionnellement aujourd'hui, en ce dimanche.
Oui, en fait, il repose exclusivement sur des bénévoles qui l'ont constitué, qui l'ont façonné, et donc dont l'ouverture ne repose que sur eux. Alors, un partenariat est en train de naître, un peu de germer, un soutien, en tout cas, ne serait-ce que dans la communication auprès de l'association des amis des musées de Gaillac. Mais effectivement, cela repose essentiellement sur des bénévoles qui ont aussi leur âge, qui ont aussi leurs occupations, leurs activités. Donc, c'est pas simple d'avoir un créneau régulier d'ouverture. Mais on peut peut-être y repenser aussi. Pour l'anecdote aussi, ce qui a conduit cet événement de cet après-midi, c'est aussi le fait que nous avons vécu un grand événement en mars dernier, qui est la profession solennelle, les vœux perpétuels de 5 religieuses à Gaillac. Ce n'était pas arrivé depuis 53 ans. Des sœurs birmanes qui ont passé leurs 2 dernières années de formation ici à Gaillac, avec d'autres. Et ces 5 sœurs-là ont souhaité faire leur vœu définitif ici. Et j'ai pu goûter et mesurer l'attachement des paroissiens à la congrégation, à la figure d'Émilie quand même, dont on a les reliques dans l'église Saint-Pierre de Gaillac, du centre-ville. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout cela qui m'a fait dire et puis proposer à mon équipe d'animation pastorale, et aux sœurs et puis aux bénévoles aussi du musée, de proposer cet événement à la famille de Pierre Boyer aussi, pour faire connaître et découvrir tout cela.
Jean-Pierre Valatte, c'est moi qui ai créé le musée. En 2004, la sœur responsable, sœur Joseph-Marie, d'ailleurs vous avez la photo, les protagonistes du musée, il y en avait 4, la sœur Joseph-Marie, le peintre, Pierre Boyer, mon copain Alain Soriano, à qui j'ai fait faire les textes qui sont affichés, et puis moi qui ai fait...
La mise en place, la mise en espace.
Voilà. Je venais d'être à la retraite et la sœur Joseph-Marie, qui était la responsable donc de la communauté de Gaillac, m'a dit un jour, tiens Jean-Pierre, il faudrait que vous veniez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Et elle me sort un grand classeur, là. Vous savez, des classeurs verts et noirs où les peintres mettent leurs épaves, leurs dessins. Elle ouvre et il y avait les 14 premières aquarelles là, de Pierre Boyer qu'elle lui avait fait faire, qu'elle lui avait commandé. Et alors avec ça, elle m'a dit, il faut faire un musée.
Et ça a été le point de départ.
Oui.
Et puis ensuite,
le second semestre, de juillet à décembre, on n'a fait que le premier. Enfin, j'ai fait que la première pièce. Et puis après, avec l'usage, disons, on a dit, il faudrait mettre ceci, il faudrait mettre cela. Et donc, on lui a fait faire à Pierre Boyer les cinq aquarelles qui sont ici, puisque la première partie, c'était faire uniquement la vie de Sainte-Émilie. Et là, c'est les œuvres de la congrégation. Voilà. Et puis, petit à petit, on a complété tout ça.
Ce musée, est-ce que ça a changé quelque chose, vous, de votre connaissance d'Émilie et de votre relation à elle ?
Ah, beaucoup. Vous savez, on ne passait pas 4 mois enfermés là-dedans sans penser à Émilie et son œuvre et gna gna gna. Mais déjà, on était quand même très proche de la communauté. Puisque à un certain moment, ça a existé, ça va recommencer. On est membre associé de la congrégation avec mon épouse.
Émilie, c'est une figure...
Les gens ne la connaissent pas. C'est triste, oui. Très, très peu. Et le musée, on a de la peine à l'ouvrir. Il n'y a personne qui vient le voir. On a fêté la fête de Sainte-Émilie le 17, mardi. Et il y avait 52 personnes à la messe. C'est beaucoup et c'est très peu. C'est la première congrégation féminine quand même, qui a été fondée par Émilie. Donc, elle a essuyé les plâtres un peu avec les évêques et les prêtres.
Oui, c'était une forte femme, hein, avec un fort caractère.
À l'époque, il y a 20 ans encore, il y avait Mère Teresa, mais je la compare à Mère Teresa dans tout ce qu'elle faisait, c'était... Énorme, énorme.
Elle n'a jamais baissé les bras.
Ah non, jamais, jamais. Elle fonçait.
Des difficultés, elle en a eu.
Ah oui, des difficultés affreuses. Avec ses, ses sœurs, et avec les prêtres, avec, pas tous, mais
avec la hiérarchie.
La hiérarchie, il n'y a que le pape qui était d'accord avec elle.
Une belle figure qui veille peut-être sur Gaillac aujourd'hui.
Ah ben, c'est sûr qu'elle veille sur Gaillac, je comprends.
Ah oui. Retour dans le vestibule de cette grande et belle demeure, maison natale d'Émilie de Vialard, où sont exposées désormais les 15 délicates aquarelles réalisées par Pierre Boyer. Avec beaucoup de justesse et de finesse, le peintre retrace les grandes étapes de la vie d'Émilie, et le reste appartient à chacun. Père Gaël.
En tout cas, ce qu'on en reçoit en regardant, en lisant les aquarelles, qui sont d'une facture finalement très... très contemporaine pour nous aujourd'hui. Elle nous plonge dans, bien sûr, le Gaillac du début du 19e siècle, voilà, cette société de l'époque. Et en même temps, dans ce style très contemporain, eh bien, elle nous rend de Émilie et son histoire finalement très proche. Voilà, bon, dans les premières années de sa vie, Émilie, avec sa famille, ses parents, ses études, se promenant dans la ville de Gaillac, allant prier à l'église. Voilà, finalement, c'était une fille du peuple, une fille ordinaire, une fille comme tout le monde, chrétienne bien sûr, hein, puisque bon, elle avait fait sa première communion, marquée par les épreuves, parce qu'elle a perdu sa mère très jeune. D'ailleurs, à ce moment-là, Émilie faisait des études en région parisienne et donc elle a été amenée à Émilie à revenir ici pour revenir auprès de son père, etc. Et puis ensuite, voilà, la découverte de sa vocation. Là, on reconnaît l'église Saint-Pierre, mais qui est exactement l'église d'aujourd'hui. Sinon, bien sûr, avec la réforme liturgique, il y a un autel contemporain au milieu du cœur. Mais le maître-autel sur lequel Émilie a eu sa vision du Christ, les plaies ouvertes, et qui a été pour elle un événement marquant dans son appel, ben c'est le même autel qu'on a toujours aujourd'hui au fond du cœur et que j'aime regarder en me disant, ben voilà, c'est ici qu'Émilie a eu cette vision-là qui l'a marquée à tout jamais.
Mais c'est vraiment de l'incarnation.
Mais effectivement, il y a quelque chose de très ancré et de très... finalement, au fond, de contemporain dans ce soin du service des pauvres, etc. Et puis, ce qui est beau d'avoir ce musée dans sa maison natale, là, nous sommes devant une aquarelle qui présente un événement où, en fait, Émilie accueillait dans la maison, bien sûr, les pauvres pour les nourrir, etc. Son père, qui était assez farouchement opposé, quitte à renverser le chaudron dans lequel elle faisait cuire la soupe. Et à un moment donné, son père refusait qu'Émilie fasse entrer les pauvres dans sa maison, les accueillir dans la cour à l'extérieur. Et donc, qu'à cela ne tienne, Émilie a ouvert dans le mur du jardin une porte pour y faire passer les pauvres, etc. Eh bien, nous sommes dans la maison natale, eh bien, nous pouvons sortir dans la cour et voir la porte, aujourd'hui murée, mais quand même il y a le lieu, la porte par laquelle Émilie faisait entrer et sortir les pauvres, la terrasse sur laquelle elle se posait, elle accueillait les gens, elle discutait avec eux et les servait au nom du Christ. Donc c'est vraiment bouleversant, nous sommes vraiment, c'est vraiment incarné, nous sommes dans ces lieux-là où tout cela s'est vécu.
Artiste très attaché à sa Vendée natale et à Gaillac, sa ville de cœur, homme de lettres chaleureux, ouvert au monde et profondément engagé auprès de ses contemporains, voilà le portrait qu'en font deux de ses filles, Odile et Isabelle.
Oui, papa avait toujours été très attaché à ce coin qu'il a beaucoup inspiré pour ses dessins, ses peintures. Et donc il a accepté bien volontiers de se pencher sur cette personnalité gaillacoise quand même, Émilie, qui n'était pas encore suffisamment connue à l'époque. Et c'était une excellente idée, je trouve, de faire pour ce musée une collection de peintures. Je me souviens qu'il travaillait ça à la maison, il cherchait l'inspiration, il nous posait des questions, il interrogeait beaucoup maman avec qui il parlait beaucoup de ses peintures. Je vois, là, moi, je ne connaissais pas tout. J'ai vu la première partie jusqu'en 2005, je crois, 2003. Et je n'avais pas vu la deuxième partie, là, jusqu'au 15e tableau. Donc,
il y en a combien ici ?
Il y en a 15. 15 plus 16 qui reprend la carte du monde, là, avec toutes les congrégations. Il a fait ça aussi.
Une question, je ne sais pas, il faudrait qu'il soit là pour pouvoir y répondre, mais est-ce que ces aquarelles, cette rencontre avec Émilie de Vialard, le fait qu'il ait beaucoup, il a beaucoup lu des lettres d'Émilie, des archives, est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie ?
Je pense que ça a fait, oui, ça a dû consolider vraisemblablement cette histoire gaillacoise. Papa n'est pas natif d'ici. Mais papa s'est quand même engagé dans beaucoup de choses. Collaborer à la création de RCF, ça l'a passionné, tout ce travail médiatique. Là, on a conservé tous ces éditos là, qu'il préparait. Voilà. Saint-Émilie a pris, là, je pense, plus d'ampleur. Le lien avec les religieuses avec qui on était toujours très, très proches quand même... ça l'impliquait encore plus dans ça approfondissait les racines.
Dans la vie, dans les vies locales.
Exactement. Mm-hmm. Ouais, voilà. Puis bon, c'était un honneur pour lui de le faire, mais avec quel plaisir travailler pour la construction de ce musée et l'illustration en tout cas.
Très sociable. Il avait toujours besoin d'être
en contact,
en collectivité, très engagé, toujours très actif, très vivant, quoi, très dynamique, vivant.
Une très belle écriture, une très belle écriture, tant au niveau de la calligraphie que du contenu. Vous savez, c'est ses parents ou grands-parents qui témoignaient à travers leur courrier de cette beauté de la lettre. Ton père, il l'avait, ça.
Papa, il a fait le billet de pierre pendant plus de 10 ans à la radio catholique, la RCF, voilà. Le billet de pierre, c'était d'une semaine sur l'autre, quelque chose qu'il a sensibilisé, soit sur le plan politique, soit sur le plan social, soit sur le plan des mœurs, soit sur le plan de l'évolution, etc. Et donc, il faisait un billet qui durait bien 10 minutes.
C'était un chrétien dans le monde ?
Un chrétien dans le monde, complètement, et il témoignait aussi de son engagement, vraiment. Oui, oui. Oui, bon, il s'est engagé très tôt aussi dans la résistance. Il avait commencé à Paris pendant ses études, où il avait comme un de ses profs à l'école coloniale qui était Georges Pompidou. Et tous ses profs étaient assez engagés dans la résistance dans les années 43-44. Et à ce moment-là, ensuite, papa a été rappelé par son père parce qu'on le recherchait. Il est revenu en Vendée et de là, son père lui a dit « Ben voilà, je te donne un billet, tu pars vers le sud ». Il est parti à l'Odève et il a fait le maquis à l'Odève. Et ensuite, donc ça c'était 43-44, il a rejoint l'armée de Delattre. Enfin, mon frère vous raconterait ça beaucoup mieux. Et l'armée de Delattre, et ensuite il est reparti, il a monté le Rhône, il est allé jusqu'en Allemagne, la forêt noire en Allemagne, et en 1945, il a été démobilisé à l'automne 1945. Voilà.
À quelques pas de la maison natale d'Émilie de Vialard, la maison où le soir de Noël 1832, elle fonda sa congrégation. C'est là, dans cette maison qui jouxte le collège-lycée, qu'il y a quelques années, je découvrais pour la première fois les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Sœur Marie-Pascale, aujourd'hui décédée, était alors mon guide.
On peut monter à pied aussi, c'est pas loin, c'est au premier étage.
Alors là, on va où ?
On va à la salle de communauté, où vous allez voir un portrait d'Émilie, ancien. Je vous dirai pourquoi.
Donc voilà, donc ici, juste en face de nous, donc voilà. C'est le portrait d'Émilie.
C'est le portrait d'Émilie. Alors c'est le plus ancien portrait, on est sûr, parce que bien sûr il n'y avait pas de photo à cette époque encore, mais elle n'a pas le voile. Donc elle a, si on regarde le costume, c'est le costume des dames de l'époque à peu près, avec le chapeau, hein, là, Et puis, sauf qu'on ne voyait pas les cheveux. Elle mettait un bandeau, tout ça, pour ne pas voir les cheveux. Mais sinon, c'était le costume des dames de l'époque avec simplement tissu très simple. Mmh. Et puis, il faut quand même remarquer qu'elle a un tablier. Ce qu'on voit ici, là, c'est un tablier. Je pense que c'est par esprit de service. Quand vraiment elle faisait du travail matériel, elles mettaient autre chose par-dessus. D'accord. Mais voilà, hein, donc elles étaient comme des dames, quoi, simples. Ce signe de service, bon, et puis la croix.
Et puis la croix.
La croix, bien la sûr. Croix.
Donc là, c'était, elle avait déjà fondé la...
Là, elle avait déjà fondé,
elle avait déjà fondé la congrégation.
Oui. Mais après, peu de temps après, dans les premières années, on l'a obligée à mettre un voile. Donc après, elle avait un voile. On a dit, pour des religieuses, il faut un voile. Donc elle en a mis un. Mais sinon, au point de départ, c'était... Oui. Le costume des dames, mais en très simple.
Et vous-même, d'ailleurs, vous n'êtes pas un habit. Hein.
Justement, moi, je ne suis pas... Et en France, alors ça, l'habit, c'est très variable selon les pays. En France, en général, on n'est pas en habit, quoiqu'ici, à la communauté, il y en a une française. Bon, il y a Sœur Dorothy qui, en Birmanie, sont bien en habit. Mais il y a une française qui est en habit. Et sinon, on s'habille... moi, quelquefois, je dis, mais moi je suis comme Sainte-Émilie, parce que je suis habillée comme les dames de mon temps, mais simple. Elle, c'était pas une vie contemplative complètement qu'elle voulait. Donc elle a d'ailleurs beaucoup lutté pour ça. Autant elle insistait sur le recueillement, autant elle ne voulait pas une vie cloîtrée. Elle voulait une vie ouverte aux autres, qui aille vers les autres. Bon. Depuis Saint-Vincent de Paul, ça se faisait beaucoup en France, il y avait beaucoup de congrégations, mais elle, c'était aller vers les autres à l'étranger. À l'étranger, parce qu'à l'étranger, il y avait des gens qui ne connaissaient pas la foi chrétienne.
Et puis, bon, c'était peut-être aussi dans l'esprit du moment, voilà, c'est le milieu du 19e siècle.
C'est l'expansion coloniale, et en même temps, c'est l'expansion missionnaire féminine.
C'est une pionnière, quoi.
C'est une parmi les pionnières, tout à fait.
Elle est allée, je crois, au début, elle est partie en Afrique du Nord.
Oui, elle est partie en Algérie parce que, justement, un de ses frères était un des premiers colons d'Algérie. Et donc, voyant la misère des gens, il dit à sa sœur, viens ici, tu auras de quoi faire.
Il y a du travail.
Voilà, il y a du travail et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Et une femme forte et qui n'a jamais baissé les bras, et pourtant des difficultés, il y en a eu.
Oui, c'est vrai qu'elle avait un caractère très fort, parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'évêque d'Algérie, ici à Gaillac, avec son assistante. Bon, ce qui fait qu'elle s'est expatriée à Toulouse. À Toulouse, ça a été difficile aussi parce qu'elle n'était pas connue, c'était une grande ville, et puis... Les mauvaises langues de Gaillac n'étaient pas trop, trop loin non plus, enfin, etc. Donc, elle a fini par... C'est l'évêque de Marseille, Monseigneur de Masneau, enfin, Saint-Eugène de Masneau, maintenant, qui l'a accueilli, lui, au contraire, très, très bien. Et donc, la fin de sa vie a été beaucoup plus calme, disons.
Mais la mission, s'ouvrir à l'étranger, partir ailleurs, c'était sa vocation, son appel ?
Ah oui, je crois. Plus j'étudie les lettres, plus je suis persuadée que c'est surtout faire connaître et aimer Jésus. Je pense que c'est surtout ça. Alors, évidemment, par le moyen qui pouvait être les siens, de témoignages, donc des moyens indirects souvent, puisque c'était dans des pays qui ne connaissaient pas du tout, quoi, hein. C'est les pays musulmans, les pays où il y avait... Par exemple, elle a très vite vu en Algérie, où il y avait des musulmans et des juifs. Donc, bien sûr, elle s'est très vite rendue compte qu'il ne fallait pas parler de Jésus comme ça. Mais pour moi aussi, ce qui résume bien, c'est qu'un jour, un chef arabe a montré, en la voyant qui soignait des gens, des arabes très, très mal en point, il a montré le Christ qu'elle avait sa croix, sur la poitrine, et il lui a dit « Celui-là est bien bon qui te fait faire ces choses. » Et là, je crois qu'elle était contente. Je pense. Hein. Il me semble que là, elle disait « Mon but est atteint. » Parce qu'elle s'est très vite rendue compte que ce musulman, il ne se ferait pas chrétien. Il n'arriverait pas jusque-là. Mais
que il l'avait déjà, reconnu quand même.
Voilà. Lui. Que déjà, il reconnaisse que Jésus était un Dieu bon, était Dieu et qu'il était bon. C'était déjà... Enfin, je pense que pour elle, c'était une réussite. Alors, je vous dirai les piliers de la spiritualité de Sainte-Émilie. C'est d'une part, elle a prié beaucoup devant un tableau qui se trouve à l'église Saint-Jacques de Montauban. Elle ne le dit pas, hein, mais vu tout ce qui s'est passé après, on est sûr que c'est devant ce tableau. Un tableau qui représente l'apparition de l'ange à Saint-Joseph, quand l'ange fait comprendre à Joseph que l'enfant que Marie attend vient de l'Esprit-Saint. Et donc, je pense que ça, c'est un premier pilier de sa spiritualité. Elle a été frappée petit à petit par ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a envoyé son Fils unique. Et la deuxième chose, c'est quand à l'église Saint-Pierre, qui est là à côté, un jour où elle faisait une visite au Saint-Sacrement, elle a eu la vision de Jésus avec les cinq plaies. Et je pense que ça a complété. Jésus a tellement aimé les hommes qu'il a donné sa vie pour eux. Et donc, moi aussi, je dois donner ma vie pour les autres. Et il y a aussi le lien très fort quand on pense à cette vision à l'église Saint-Pierre, il y a le lien très fort entre l'Eucharistie et le sacrifice de la croix, puisqu'elle faisait une visite au Saint-Sacrement, donc elle priait Jésus hostie, et elle dit elle-même, ce qui est très bien pour nous parce que ça la rapproche de nous, que quelquefois elle avait des doutes sur cette présence réelle de Jésus dans l'hostie, et il me semble que sa vision, c'est un peu comme si Jésus lui donnait la réponse. Tu vois, tu es en train de me prier, moi, dans l'hostie, mais c'est bien moi, le même, qui ai donné ma vie pour toi. Et donc, toi, fais pareil.
Alors, si je vous suis bien, sa vie, elle est partagée, je veux dire, entre le faire et l'être.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la contemplation qui mène à l'action. Hein. Et elle insiste beaucoup, là, dans les premières constitutions aussi, ou même les premières lettres, enfin, les lettres qu'on étudiera l'année prochaine, là, hein. Que les sœurs puissent avoir des temps de silence. Le silence, elle insiste beaucoup sur le silence, mais le silence pas pour le silence en lui-même, mais pour pouvoir contempler, pour pouvoir penser à Dieu et ne pas gêner ceux qui, par exemple, n'ont pas le même emploi du temps. Alors ça, c'est encore plus vrai de nos jours où nous avons des emplois du temps très, très différents. Mais voilà, hein, respecter pour qu'on ait du temps de recueillement. Elle dit que le recueillement est l'esprit propre de la congrégation.
Donc là, on se dirige vers la chapelle.
Vers la chapelle.
Venant de rentrer dans l'église Saint-Pierre.
Donc c'était la paroisse de Sainte-Émilie. Et c'est là, alors qu'elle faisait une visite au Saint-Sacrement, c'est sur l'autel, donc l'autel du fond, qu'elle a eu cette vision du Christ avec les cinq plaies, qui a été, je pense, un facteur déterminant pour sa vocation.
On va peut-être s'avancer, vous m'aviez parlé des reliques.
Oui, voilà, c'est une châsse qui contient des reliques de Sainte-Émilie en ailleurs. Hein. Mais Sainte-Émilie, après sa vie mouvementée, est donc morte à Marseille. Et quand on a voulu commencer la cause de béatification, on a ouvert le tombeau, le corps n'était pas décomposé, mais une fois qu'il a été ouvert, après la deuxième fois, il était décomposé, donc du coup on a mis certains restent dans le polochon, là. Et puis d'autres ont été dans des reliquaires, enfin bon. Et donc la statue là est en cire.
Et aujourd'hui, ici à Gaillac, de quelle manière les sœurs et la communauté des fidèles poursuivent-elles l'œuvre d'Émilie Père Gaël ?
Il y a deux grandes dimensions dans le charisme et l'apostolat d'Émilie. Il y a l'enseignement d'une part, alors à l'époque des jeunes filles, hein, puisque ce n'était pas institué à ce moment-là par l'État, etc. Mais donc l'enseignement et puis le service des pauvres, des personnes malades, âgées, etc. Et donc ça reste encore les deux grands piliers. Alors l'enseignement ne se fait plus de manière directe, mais le collège et lycée Saint-Joseph de Gaillac est sous la tutelle de la congrégation. Les sœurs habitent on va dire dans le même immeuble, les appartements et puis le couvent est quand même distinct hein, aujourd'hui, mais il y a une vraie proximité, ne serait-ce que géographique, spirituelle. Et puis aujourd'hui on essaie de redynamiser aussi la pastorale au sein de l'établissement scolaire dont je suis l'aumônier, mais on travaille aussi avec la congrégation, avec la communauté des sœurs pour leur permettre aussi d'être présente auprès des jeunes. Les jeunes sont sensibles à la figure d'Émilie, à son histoire. C'était une jeune fille un peu rebelle pour son époque, hein, enfin en tout cas qui était audacieuse.
Les saintes, les grandes saintes souvent sont rebelles. Hein,
absolument, absolument. Et c'est pour ça que c'était de grandes et belles femmes, de superbes figures.
Pascal, donc vous êtes enseignante au
collège et lycée.
L'esprit de Saint-Émilie, est-ce que c'est Saint-Émilie de Vialard, comment se traduit-il? Est-ce qu'on le perçoit au sein de l'école?
On essaie de le faire vivre au quotidien dans un petit peu tout ce qui se vit dans l'école. Voilà, déjà le chef d'établissement au niveau du recrutement des élèves vise vraiment à faire vivre ce charisme d'Émilie, tourné vers les plus pauvres et les plus nécessiteux et ouvert à tous, vraiment. Donner des secondes chances, même des troisièmes chances aux gens, parfois. Au sein de l'équipe pédagogique et éducative, nous employons justement à essayer d'établir un climat de dialogue, de compréhension avec nos élèves et de faire vivre cet esprit qu'Émilie a voulu. Voir Dieu qui s'incarne vraiment en eux, en chacun d'entre eux, de nos élèves et de nos collègues aussi, c'est pas que les élèves. Et voilà, et on essaie de faire notre cette pensée d'Émilie-là.
Vous, votre relation, votre histoire avec Émilie de Vialard?
J'ai été élève à Saint-Joseph de l'Apparition. Voilà.
C'est une longue histoire.
Voilà, c'est une longue histoire. Et puis, quand je suis devenue enseignante, je suis revenue travailler là par hasard, on va dire. Mais y a-t-il vraiment des hasards? Puisqu'il y avait des heures, donc un poste d'anglais qui se libérait. Et depuis, j'enseigne depuis 1999 à Saint-Joseph. Et désormais, je fais partie d'une des deux animatrices en pastorale de l'établissement aussi. Donc, toutes les deux, nous employons à faire vivre le charisme d'Émilie.
À le transmettre, à le rendre vivant aujourd'hui, actuel.
Oui. À travers beaucoup d'activités que nous menons avec les élèves et avec les religieuses aussi, donc, qui sont nos voisines. Nous sommes chez elle plutôt.
Voilà, et donc c'est déjà un premier point. Et puis ensuite, le deuxième, on a sœur Dorothy, notamment, ou sœur Elena, qui sont très, très investies dans la pastorale de la santé. Sœur Dorothy, par exemple, donc il y a une convention entre la paroisse et le diocèse et la congrégation, comme pour qu'elle soit aumônière d'hôpital. Donc elle accompagne les personnes âgées, le service d'aumônerie, à l'hôpital de Gaillac, dans deux EHPAD liés à l'hôpital. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites à des personnes malades qui sont chez elles, porter la communion, etc. Et ça c'est une vraie présence très, très précieuse, très précieuse.
Ma mission, c'était pouvoir ouvrir les malades à domicile et à la maison de retraite et à l'hôpital. Je suis visiteur simplement pour aller voir les malades et écouter ce qu'ils me parlaient. Voilà. Et j'ai amené les malades à la messe. Ou s'il est malade, ce qu'il veut. S'il ne peut pas déplacer pour aller à la messe, j'ai porté la communion dans les chambres. Et à domicile aussi, c'est la même chose. J'ai écouté aller voir le malade. S'il veut, j'ai porté la communion. Voilà, ça c'est ma mission ici. J'ai appris beaucoup de choses. On dirait que je suis allée voir vers les malades. C'est moi qui donne. Par exemple, j'ai pensé que je donne quelque chose, mais ce n'est pas du tout. J'apprends beaucoup de choses en voir vers les malades. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris pour ma vie spirituelle et ma vie de quotidienne. Voilà, j'ai gagné beaucoup. Voilà. À la place de donner, je gagne beaucoup, je pense, personnellement. Parce que quelquefois, les malades, vous pensez elles sont pitiées, les malades, mais elles sont très fortes et vous donnent beaucoup de courage et vous donnent beaucoup de choses de leur vie passée.
Donc, Émilie Vialard, envoyer ses sœurs sur tous les continents. Et maintenant, ce sont des sœurs d'autres continents qui viennent alors, réévangéliser ici.
En tout cas, continuer à faire résonner l'évangile.
Père Gaël.
Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vrai que, ben, comme dans beaucoup de ces congrégations apostoliques du 19e siècle, les vocations européennes, françaises, ben, s'amenuisent ou sont quasiment nulles aujourd'hui. Et donc ben, ce sont des sœurs d'ailleurs qui viennent, encore une fois, faire vivre le charisme de la fondatrice, faire vivre un peu son esprit, hein, qui n'est autre que la mise en œuvre de l'évangile d'une manière particulière, et en tout cas ici. Et c'est vrai que dans la communauté stable à Gaillac, nous avons aujourd'hui 3 birmanes et une indienne. Voilà. Depuis 4 ans maintenant, donc ce sont 2 générations de jeunes sœurs du monde entier qui sont venues faire leurs deux dernières années de formation à la maison de fondation, vraiment pour s'imprégner du lieu où Émilie a grandi, où elle a vécu, où elle a eu sa vocation, où elle a servi, où, voilà. Et donc pouvoir vraiment s'en imprégner pour ensuite repartir annoncer l'évangile ailleurs. Et chez nous, et bien dans celles qui sont ici et qui mettent en œuvre le charisme d'Émilie aujourd'hui. Effectivement, ce sont des sœurs d'origine étrangère, mais qui ont une belle place dans la communauté paroissiale et dans le paysage gaillacois, et c'est très heureux.
Oui, s'enraciner ici pour pouvoir transmettre.
Absolument, tout à fait. Et ça correspond tellement à la figure et à l'histoire d'Émilie. Donc, au fond, il n'y a rien d'incohérent.
Et Émilie rassemble non seulement des sœurs de toutes nationalités, mais également des visiteurs venus d'outre-Manche.
Rachel, vous êtes anglaise?
Oui.
Et vous êtes ici, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui?
Pour visiter le musée, pour savoir plus de Sainte-Émilie.
Oui. Et Sainte-Émilie, vous la connaissez comment? Vous la connaissiez déjà?
Seulement parce que je suis amie avec Tonjani et son neveu, Philippe Robert. Et donc, ils m'ont beaucoup parlé de Sainte-Émilie et ils m'ont dit que la musée est ouverte aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je viendrai. Et c'est aussi c'est l'oncle de Philippe Boyer qui a fait toutes les peintures. Alors ça aussi, c'est pour l'intérêt.
Oui. Ouais. Elles sont très, très belles.
Ah oui, super. Elles sont magnifiques.
Elles sont magnifiques. Hein.
Ouais.
Ah, oui. Elles sont très délicates, beaucoup de délicatesse.
Oui, c'est ça. C'est ça, exactement.
Exceptionnellement ouvert ce dimanche 22 juin, le musée Émilie de Vialard est visible néanmoins sur simple demande. N'hésitez pas à en faire la demande auprès des sœurs, car comme le dit Pascal, enseignante au collège lycée Saint-Joseph...
Et c'est important qu'aujourd'hui ce musée soit ouvert à tous, pour que tout le monde, même à Gaillac et en dehors de Gaillac, puisse vraiment se rendre compte de qui était Émilie, ce qu'elle a fait... cette petite gaillacoise qui a envoyé des sœurs dans le monde entier. Et c'est vraiment quelque chose d'immense pour nous, de voir tout ce qu'elle a fait et qu'elle fait encore aujourd'hui.